Face à l'info sur la première.
Mais tout de suite, face à l'info donc, et on va s'intéresser ce soir à la situation en République démocratique du Congo avec vous, Edika Kolbergs.
Destination Congo, République démocratique du Congo, état général de la situation politique et des droits humains au Congo, c'est de la thématique d'une conférence réunie par la SBLACP, présidée par l'un de nos invités, Dimitri Verdan, qui a, après avoir déjà recueilli en 2011 dans un ouvrage collectif, un état des lieux de la situation de la société civile, de la société politique, des grandes tendances, des forces en présence et du respect des droits humains, l'ambition de refaire maintenant le même topo en période, on le sait, politiquement intéressante, en préparatif électoraux, ce qui n'est jamais une période simple. Outre Dimitri Verdon, nous avons la joie et le plaisir d'accueillir l'ancien président du Parlement congolais, président de l'UNC, ce Vital Kamerhe, tout comme Paul Nsapu, qui lui est vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci d'être face à l'info. Dimitri Verdon, bonsoir. Un mot évidemment sur l'intention. En 2011, je l'ai dit, un premier point de la situation. 4 ans après, ça fait assez de recul pour être relativement différent de ce que l'on a dit en 2011 ?
Certainement. En tout cas, c'est suffisamment de recul pour voir si le président a tenu ses engagements en matière de droits de l'homme. Et donc, comme vous l'avez dit, l'idée, c'est de proposer une photographie la plus détaillée possible. Et donc, quand on s'attache à faire une présentation de la situation des droits de l'homme, on la conçoit à la fois sous l'angle des droits civils et politiques, sous l'angle des droits économiques et sociaux. Donc, on s'intéresse aux droits de l'homme au sens où on l'entend généralement, mais donc aussi aux droits à l'éducation, aux droits au logement, aux droits à la santé. Et sur tous ces points-là, évidemment, qu'en 4 ans, il y a moyen de faire ou de ne pas faire les choses.
Est-ce que l'on peut le faire raisonnablement en période électorale ? Certes, il s'agit donc d'un bilan aussi, ou d'un contre-bilan fait ou proposé à l'exercice politique du président sortant. Est-ce qu'on peut le faire avec d'autres forces politiques de terrain qui chacune ont leur agenda ?
Bon, évidemment, c'est très compliqué, mais nous, si vous voulez, on se limite à donner la parole à une série d'acteurs, horizons très divers, c'est-à-dire, en effet, les politiques, qu'ils soient du côté du régime ou du côté de l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme, aussi les représentants de la communauté internationale qui sont sur place, les syndicats, les entreprises aussi. Donc, évidemment, chacun a aussi son propre agenda de ce point de vue-là. Mais oui, bien sûr, je veux dire, le moment est justement particulièrement intéressant parce que aussi la communauté internationale a le regard tourné vers ce qui se passe, plus qu'en période où les élections n'attirent pas un large public.
On va revenir dans un instant, notamment sur l'aspect droit de l'homme avec Paul Nsapu, mais je me tourne immédiatement vers vous. Vital Kamerhe, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je le rappelle, vous présidez l'UNC, vous avez présidé le Parlement congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'amorce de cette longue période électorale, qui sont toujours des périodes d'incertitude et parfois d'intense violence aussi, est-ce que vous êtes inquiet pour votre pays, pour la situation globale, la tension potentielle que cela peut générer?
Oui, à la fois inquiet mais rassuré. Inquiet pourquoi? Parce que les intentions du président Kabila et de son pouvoir sont restées inchangées. Nous savions d'abord déjà qu'en 2011, ils avaient triché les élections. Cela est un secret de polichinelle. Ça a été dénoncé par toutes les observations nationales et internationales. Il y a eu des graves violations des droits de l'homme qui continuent. Et nous savions aussi, on avait tiré la sonnette d'alarme déjà à ce moment-là. Nous avons dit, ça ne sert à rien de continuer à se lamenter sur la grave tricherie qui vient de se passer. Regardons dès l'avant, parce qu'il y a les élections provinciales qui doivent absolument avoir lieu et n'ont jamais eu lieu. Ouais. Nous savons qu'en 2016, exactement le 19 décembre, Kabila sera à son deuxième et dernier mandat et conformément à l'article 220 de la Constitution, il ne peut plus se représenter.
Donc certains de ses collègues en Afrique ont eu récemment encore la tendance à vouloir tenter de changer la Constitution plutôt que de quitter le poste.
Je pense que l'événement de Ouagadougou et suivi des événements du 19 jusqu'au 25 à Kinshasa vont finir par dissuader certains d'entre eux à comprendre que les Africains ont acquis la maturité et ils ont compris que leur destin c'est entre leurs mains. jamais. À Kinshasa, nous l'avons fait, parce qu'au départ, le président Kabila voulait changer la constitution. Il a reculé pour mieux sauter, mais il a mal sauté, il a sauté dans un trou. Parce que le 19, effectivement, avec son projet de loi, il a été obligé de retirer l'alinéa 3 de l'article 8, qui constituait une sorte d'astuce pour lui de prolonger le pouvoir parce qu'il voulait conditionner la tenue des élections à l'organisation du recensement. Et quand on sait que le recensement de seuls éléments de la police ou des fonctionnaires, ce recensement a pris 6 ans, il n'est jamais terminé. Donc, il y a fort à parier. S'il faut recenser 70 millions de Congolais, ça prendra au minimum 10 ans. Mais ceci dit, le combat n'est pas terminé. Nous avons le calendrier global, mais il n'est pas réaliste. Il n'est pas consensuel, il est même dangereux. C'est pourquoi l'opposition a fait une proposition d'un calendrier réaliste et qui puisse garantir la tenue des élections. Mais il y a 2 acquis. Le premier acquis, c'est que Kabila s'est mis lui-même une épine dans le pied parce que la date de la tenue de l'élection présidentielle est connue. C'est le 27 novembre 2016. La date de l'entrée en fonction du nouveau président est connue aussi. C'est le 20 décembre 2016. Donc nous, en tant qu'opposants et leaders de l'opposition, nous allons tout simplement faire un tableau où nous allons chaque jour faire jour J moins autant. Et ça sera le détonateur. Donc le président Kabila, quel que soit le subterfuge qu'il veut multiplier, puisque maintenant il entre dans l'histoire du découpage provincial, il n'est pas déjà capable de nourrir 11 provinces, il veut en créer 26. On comprend tout ça, c'est pour gagner du temps, mais nous l'avons à l'œil, et il doit savoir qu'en ce qui le concerne, lui, il peut faire rater les élections provinciales ou municipales et locales, mais on ne ratera pas les élections présidentielles, législatives, nationales. La date est connue et elle est constitutionnelle.
Vital Cameret, vous parliez du recensement. Alors vous nous l'avez présenté comme un alibi, un faux nez que le président sortant utilise parce que ce recensement n'est jamais terminé. Cela dit, est-ce que l'on peut véritablement espérer tenir des élections sereines et concrètes si l'on ne sait pas avec précision qui est électeur ?
Oui, il ne faut pas créer de l'amalgame. Le recensement de la population, c'est pour connaître le nombre des Congolais. De 0 à l'âge le plus élevé, du Congolais le plus vieux. Tandis que le corps électoral, c'est tout Congolais qui a au moins 18 ans. Donc nous avons besoin d'identifier le corps électoral. C'est pourquoi, dans sa proposition, l'opposition politique parle plutôt de refaire l'enrôlement, c'est-à-dire un nouveau fichier électoral. Puisque l'actuel est corrompu, on ne peut plus aller aux élections avec les fichiers de Pasteur Molunda. Il est vicié, il a du virus et nous n'allons pas accepter. Et c'est pourquoi nous disons, faisons simple. Faisons les élections provinciales parce que on doit élire les députés qui, à leur tour, vont redonner les mandats à de nouveaux gouverneurs. Il y aura des sénateurs, on va refaire le Sénat. Et c'est simple, en 2015, on peut finir ça. Et en 2016, le 27 novembre, tranquillement, nous faisons l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Et nous disons au président Kabila qu'il existe une vie après la présidence de la République.
Paul Tsapou, bonsoir. Est-ce que l'on peut effectivement reprendre le mot du président Cameret lorsqu'il dit « faisons tranquillement » Est-ce que le mot « tranquillement » pour l'instant rime franchement avec l'actualité, non seulement politique, mais pour la société civile et singulièrement du point de vue des droits de l'homme? Est-ce que c'est le mot qui rime le mieux avec la vie congolaise?
Ben, c'est un souhait. Mais le tableau que le président Kabila, plutôt le président Cameret, venait de nous brosser, c'est un tableau qui ne nous surprend pas, nous, de la société civile congolaise. C'est un tableau qui nous pousse à dire que les échéances à venir sont des échéances où pratiquement les violations des droits de l'homme seront de mise. Pourquoi ? Puisque par le passé, et vous vous souvenez encore qu'en 2006, il y a eu de la violence. En 2011, il y a eu de la violence. Et nous, déjà à la FIDH, avec le président de la Ligue de l'époque, de la Ligue belge des droits de l'homme, Benoît van der Merschen, nous avions fait une mission en 2009 et nous avons sorti un rapport accablant qu'il y avait la dérive autoritaire du régime de Kinshasa à mi-parcours du premier mandat. Et souvenez-vous aussi qu'à l'époque, il y a eu déjà de méthodes répressives de manifestants, etc.
Et des disparitions inquiétantes aussi.
Inquiétantes, et c'est à cette occasion-là qu'il y a eu, longtemps près, en 2010, l'assassinat de défenseurs de droits de l'homme Floribert Chebeya, etc. C'est, les journalistes n'en parlons pas. Alors, à cause de ces dossiers très sensibles qui font peur au président Kabila, je crois que les intentions, comme le président Kamere l'a dit, sont là pour s'accrocher au pouvoir. Donc pour nous, nous avons pris nos dispositions en tant que société civile, en tant que défenseurs des droits de l'homme, pour nous déployer et documenter davantage ces dossiers.
Vous aurez besoin d'observateurs internationaux ou est-ce que les forces de la société civile congolaise suffiront à vérifier, à entériner, à garantir la tenue des élections?
Eh bien, nous voulons demander aux acteurs internationaux de procéder aussi autrement. Et ils sont les bienvenus, puisque le monde devient un village. Donc, on ne peut pas s'isoler. Ils doivent participer aux grandes, si vous voulez, échéances ou dispensations de la vie politique du Congo. Voilà pourquoi nous voulons qu'ils innovent, par exemple, que l'Union européenne, que la Belgique, par exemple, innove sa façon de financer ces élections-là, puisque le cadet, disons, les soucis de financer ces élections au niveau de la société civile a été plus pour l'aider à faire l'éducation civique et à déployer un plus grand nombre d'observateurs nationaux. Voilà pourquoi, avec tous les moyens qui sont disponibles actuellement, je sais que la Belgique prévoit 30 millions d'euros, plus le reliquat de 20 millions d'euros qui sont restés pour pouvoir financer ces élections. Mais nous voulons voir comment les institutions belges, le gouvernement belge, pourra aider et contribuer lorsque les conditions seront réunies et les préalables pour qu'on aille à ces élections. Mais il faut rappeler, notre inquiétude, c'est surtout la méthode d'agir d'un gouvernement qui est en place actuellement. Cela s'apparente, si vous voulez, à des actes de terrorisme d'État. Pour cela, je rappelle l'opération Likofi, où on a tué des enfants pour rien au monde. Je vous rappelle également l'opération qu'il y a eu contre les adeptes du passeur Mukungubila, un certain 30 décembre 2013. Et nous avons documenté ces cas-là, pas moins de 200 personnes civiles tuées au moyen d'un dispositif sécuritaire, l'utilisation du recours disproportionné de la force létale. Pas plus qu'il y a un mois, vous l'avez évoqué ici, en janvier, la manifestation pacifique initiée par l'opposition et la société civile ont été réprimées dans le sang et le rapport vont sortir et qui seront accablants. Alors vous voyez, en période électorale, un régime qui recourt à des actes terroristes, en période électorale, là, ça devient très dangereux. Voilà pourquoi il faudrait que les acteurs au niveau international changent un peu de méthodologie pour essayer un peu d'aider les Congolais cette fois-ci à retrouver la quiétude, la liberté.
On se retrouve dans un instant après cette pause pour aller plus en détail encore à la rencontre de cette société en transition et en attente d'échéances électorales multiples.
Soir première. Face à l'info.
La situation en République démocratique du Congo, les liens aussi entre le Congo et la Belgique. Voilà ce dont vous allez parler, continuer de parler avec vos invités, Dika Kolbergs.
Pour cette deuxième partie, je reviens vers vous, Vital Kamerhe d'emblée. Paul Sapou, en fin de première partie, faisait appel à la communauté internationale pour qu'elle change en quelque sorte et son regard et sa pratique. Est-ce que vous avez confiance dans ce que l'on pourrait alors dès lors rappeler une espèce de rupture des liens que l'on a parfois dit extrêmement fort, par exemple entre la Belgique et le gouvernement de M. Kabila et M. Kabila lui-même, bien qu'il soit fait de haut et de bas. Notre visite la plus récente a d'ailleurs été un témoignage grandeur nature à cet égard, puisque un ministre caressait le régime dans le sens du poil et l'autre le critiquait.
Oui, non, ça ne nous étonne pas, puisque le président Kabila croit que non seulement le Congo lui appartient maintenant, mais l'humanité tout entière doit danser à son rythme à lui. Le président Kabila n'aime pas les critiques et j'ai beaucoup apprécié les ministres belges qui sont venus, qui n'ont pas cette fois-ci fait usage de la langue de bois. Ils ont dit que ça ne va pas au Congo et la Belgique ne va plus tolérer cela. Ceci dit, nous ne voulons pas qu'on en reste aux seules déclarations d'intention ou de communiqués condamnants. Nous devons faire comme à l'époque. Quand la Belgique disait quelque chose, le lendemain, la Belgique faisait.
Et c'était quoi avec le régime de Mobutu? Ça commençait avec l'entourage de Mobutu. Restrictions de mouvement, visa, les comptes bloqués, pour terminer par Mobutu lui-même qui ne savait plus où aller. Puisqu'à la Belgique a donné le ton, la France a suivi, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique et le monde entier. C'est le seul langage que le président Kabila peut comprendre. L'autre langage qu'il peut comprendre, c'est dans le domaine de la coopération. La Belgique, c'est quand même le siège de l'Union européenne. Et nous voulons que la Belgique soit notre avocate auprès de l'Union européenne pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. On fabrique des procès de toutes pièces, la justice est instrumentalisée. Donc Kabila utilise aujourd'hui les institutions de l'État pour inquiéter ses adversaires politiques.
Vous êtes entendu par les partis politiques ici en Belgique?
Oui, mais on
traduit ça en discours ou pas du tout?
Oui, mais disons, nous allons le vérifier puisque nous avons quelques contacts que nous avons ici, mais nous avions déjà apprécié les déclarations qui avaient été faites officiellement par les deux ministres.
Mais il faut des actes à court terme, selon vous?
Il faut des actes rapidement et maintenant. On ne peut pas accepter ce qui se passe au Congo. Non seulement on a détourné tous les deniers publics, on a vendu le sol et le sous-sol congolais. Il y a beaucoup de milliardaires en peu de temps au Congo, une poignée, une famille, de quelques individus, et on comprend pourquoi ils s'accrochent au pouvoir. Mais ils doivent savoir une chose, quand le peuple s'est mis debout et que le peuple a décidé de prendre son destin en main, comme l'a dit Paul Sabot tout à l'heure, ils peuvent danser sur leur tête, mais la date du 20 décembre 2016 sera très déterminante. Et avant celle-là, la date du 27 novembre 2016. Oui. Kabila doit choisir. Il veut partir pacifiquement, calmement, et il va bénéficier de quelques avantages qui n'excluent pas de poursuites judiciaires, s'il a des dossiers établis. Ou alors, il veut qu'on le bouscule et se retrouver en train d'échanger des lieux de résidence, comme le cas de Blaise Compaoré. Puisque s'il était donné à Blaise Compaoré aujourd'hui l'occasion de revenir deux jours avant la fin de son règne, je crois qu'il dirait au peuple de façon, je vous ai compris, je demande à ma majorité de ne pas déposer ce projet de loi, je voudrais rester et gagner mes 17 mois qui me restent. Voilà.
Vous pensez que il y a une chance raisonnable que cela se passe selon le scénario le plus calme, ou est-ce qu'il faut, hélas, s'attendre à quoi dès lors? À une révolte, à d'autres morts, à un climat de guerre civile?
Dans l'incertitude, moi je préfère dramatiser. Nous avons déjà mis notre peuple en alerte. À Kinshasa et dans toutes les provinces, nous avons demandé au peuple, après la trêve du 25 janvier dernier, dire à ce peuple, quand on va encore vous le demander, avec l'Église catholique, avec la société civile et toutes les confessions religieuses, encore une fois, de barrer la route à toute forme d'imposture, il faut que ce peuple se mette debout. Donc, il ne faut pas exclure l'un ou l'autre scénario. Tout peut arriver et les cocktails Molotov est là, puisque les arrestations ont commencé. Jean-Bertrand Iwanga est en prison pour avoir dit tout simplement que Kabila gouverne mal. Jean-Claude Muyambo est en prison parce qu'il avait dit qu'il ne faut pas qu'on révise la Constitution. Christopher Ngoï est en prison tout simplement parce qu'il fait partie de ceux qui avaient demandé aussi au peuple congolais de ne pas accepter la modification de la loi électorale. Il y a Mike Mukeba, il y a Diomi Ndongala. La liste, elle est longue. Il y a même des jeunes au niveau de l'intérêt du pays et des anonymes qui sont dans les geôles de ce qu'on appelle l'ANR, les services d'intelligence. Voilà les tableaux sombres du Congo.
Dimitri Verdonck, voilà déjà le contenu de votre rapport qui s'établit en quelques secondes ici autour du micro. Quand ce contenu contradictoire, évidemment, puisque nous n'avons pas toutes les voix ici autour de la table au micro, est dressé, quel peut être son poids? Vous espérez quoi? Par sa publicité, c'est la société civile ici qui doit agir, ou par son action politique, c'est notre gouvernement, nos gouvernements qui doivent agir, auquel cas on peut se demander si les intérêts seront pris en compte.
Mais nous, on voit notre publication et puis les conférences qu'on organise en préparation comme un instrument. Après, n'importe qui considère que c'est important de s'en servir, s'en sert. Et donc, c'est un instrument à la fois à la disposition des politiques internationaux, communautés internationales, mais aussi des Congolais. Il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des félicitations de la part de Congolais qui me disent « on a encore votre livre ici » et très concrètement, ça nous aide. Donc pour nous, c'est ça le but principal. On ne s'intéresse pas qu'au Congo. En fait, on s'intéresse à l'ensemble des pays africains, Caraïbes, Pacifiques. Et on entre dans une période particulière, c'est-à-dire que dans les deux prochaines années, plus d'une vingtaine d'élections présidentielles sont prévues dans les pays africains. Ça veut dire qu'on a l'œil aussi rivé sur ce qui se passe dans les autres pays. Les deux invités ici le constatent également. Il se passe des choses en Afrique, ailleurs qu'au Congo, mais qui peuvent avoir un impact direct sur le Congo. Et donc je voudrais juste préciser à ce titre que nous sommes signataires d'une coalition qui s'appelle Tournons la page. Nous soutenons aussi une initiative qui a été lancée par la FIDH qui s'appelle Mon vote doit compter. Et donc dans ces deux coalitions, plusieurs centaines déjà de syndicats, d'ONG, d'acteurs de la société civile se mobilisent à la fois pour attirer l'attention sur ce qui se passe dans son propre pays, mais à la fois pour se renforcer mutuellement. Et donc, si la société civile congolaise parvient à se mobiliser, parvient par exemple à effectuer elle-même une forme d'observation du processus électoral, ça peut servir pour d'autres pays dans les deux années à venir.
Paul Nsapou, quel est le rapport de force, serais-je tenté de dire, dans la société congolaise? Est-ce que la nomenclatura, est-ce que le pouvoir en place a réussi à fédérer autour de lui encore un grand parti de la rue qui peut faire barrage aux volontés que vous exprimez les uns les autres d'une plus grande transparence?
Mais non, mais nous vivons au quotidien avec cette population qui soutient tout ce que l'opposition dénonce, tout ce que les associations de défense des droits de l'homme dénoncent, et tout ce que nous vivons en tant que société civile. En réalité, ce qui se passe en RDC, c'est l'utilisation des moyens de l'État, l'armée, la police, les services de sécurité, pour pouvoir, disons, aller à l'encontre, si vous voulez, de mots d'ordre qui sont lancés par les acteurs non étatiques et l'opposition, afin que la population se prenne en charge. Nous avons avancé. Les 19, le 20, le 21, ça a été un grand jour, des grands moments où la population a démontré qu'elle est capable de réitérer ce qu'elle avait fait un certain 16 février à l'époque de Mobutu. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Le Parlement était pratiquement pris en étau, placé dans un bunker. Toutes les entrées étaient bouchées pendant que des hélicoptères sillonnaient pour dire, voilà, à tel débouché, il y a une colonne de manifestants qui avance vers le palais, aller neutraliser. Ils ont utilisé une force, si vous voulez, de répression disproportionnée et qui soit en même temps létal et qui a causé tous ces dégâts et sur lesquels nous allons revenir puisqu'il y a des victimes qui nous ont mandaté, qui nous ont accordé le mandat judiciaire pour aller avec cette histoire jusqu'au bout. Donc, le rapport des forces en réalité ont changé. La population n'en veut plus, et ils le disent, n'en veut plus de ce régime. Les opposants peuvent orienter les appels dans un sens ou l'autre, mais vous verrez, la population elle-même vous dit non. Kabila, par exemple, dégage. Et aujourd'hui, les ministres, si vous voulez, de ces gouvernements, ils rasent les murs en venant ici en Europe pour vendre ce qu'ils ont à vendre. Quand vous disiez, mais est-ce qu'il faudrait que la Belgique ou bien la communauté internationale regarde encore, change un peu de stratégie, etc. Nous disons oui. Il faudrait absolument l'octroi des visas soit revu et qu'on puisse le restreindre, puisque dans ce pays, en Belgique, il y a des gens qui sont envoyés par le président Kabila et qui sont des gens aux mains sales. Nous, on les connaît, on a des dossiers. Pas plus qu'il y a 2 ou 3 semaines. Les tortionnaires, si vous voulez, de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, étaient ici en Belgique. Monsieur Kalev Moutonde et d'autres. Voilà pourquoi les organisations de droits de l'homme congolaises et occidentales, nous allons voir le ministre des Affaires étrangères et les autorités belges pour leur dire que mais non, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faudrait aussi des mesures économiques, par exemple les avoirs, nous l'avions toujours dit et demandé, que l'on puisse bloquer ces avoirs-là quelque part.
Et le mot de la fin avec vous, Vital Kamerhe, on a évoqué l'armée et la police qui ceinturaient, qui surveillaient, qui veillaient au grain autour du palais. L'armée aujourd'hui, elle risque d'être jusqu'au boutiste?
Non, l'armée ne sera pas jusqu'au boutiste, puisque les éléments de l'armée font partie de la société congolaise. Et je suis certain que Kabila a compris cela, c'est pourquoi il avait coupé les SMS, il avait coupé l'Internet, il avait coupé tous les moyens de communication, puisque la situation était en train de changer totalement. S'il ne l'avait pas fait, la population elle-même allait se charger de la fin de ces régimes. Tous les signaux étaient là. Ils ont essayé de tirer à balles réelles. Ils ont épuisé tous les stocks de lacrymogènes jusqu'à faire venir la garde républicaine. Les Kinoises et les Kinois, les gens de Bukavu, de Goma, d'Uvira, de Fizi Baraka, de Lukala et de Kimpese et de Mbandaka, ils ont dit non, nous acceptons mourir plutôt que de continuer avec le président Kabila. Et c'est un message très clair. Le président Kabila doit comprendre qu'il passera, tout le monde passera, le peuple congolais restera et le Congo va rester. Et nous disons au peuple congolais, de la diaspora comme de l'intérieur, nous devons nous souder comme un seul homme, ne pas nous tromper d'adversaire. Nous devons savoir que le premier adversaire du Congo, c'est d'abord le régime qui est en place aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons dire. Peuple congolais, lève-toi et marche et prends ton destin en main. Et nous, nous sommes prêts à être à l'avant-plan dans cette marche.
Merci à vous, Vital Kamerhe et Ponsapou. Merci, Dimitri Verdonk, d'avoir été avec nous. Ce dossier Situation politique et des droits humains au Congo, vous vous doutez bien qu'on va le suivre. On en reste là pour ce soir.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine, de 18h30 à 19h.